Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre bulle d'optimisme dans laquelle on découvre des histoires d'entrepreneurs, des femmes et des hommes qui osent et qui bâtissent déjà le monde de demain. La France bouge sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous.
Chef du service économie d'Europe 1. Aujourd'hui Emmanuel, on va parler de nos papiers d'identité.
Oui, si je vous dis imprimerie nationale, ça vous parle tout de suite, j'en suis sûr. Cette vieille dame, si je peux dire, de plus de 500 ans, est aujourd'hui l'une de nos pépites technologiques. Elle conçoit et fabrique tous nos titres d'identité, des titres de plus en plus sécurisés comme la toute nouvelle carte d'identité qui vient de sortir. Et bien justement, on va vous emmener jusqu'à 14h dans les coulisses de l'imprimerie nationale, même si maintenant on dit IN Group.
À la une, en effet, un monde devenu dématérialisé avec notamment la technologie de l'hologramme. Un hologramme qui détecte les mouvements du bras, par exemple, quand on monte dans un ascenseur. Plus de liberté dans les mouvements et plus de sécurité, c'est le procédé de MZ Technology. On découvre cette start-up d'ici quelques minutes.
Alors là, c'est impressionnant. Leur papier a aussi bien servi à imprimer l'encyclopédie que la constitution de la 5e République. C'est tout simplement le plus vieux moulin à papier de France encore en activité. Le moulin à papier Richard Debat, ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Vous êtes parent et vous avez l'impression que votre cerveau va exploser, peur d'oublier des rendez-vous. À 13h45, nous ferons la connaissance de Marie Lagrange qui a fondé AIKA. C'est une application dédiée aux parents. C'est le pitch du jour des trophées de l'avenir Europe 1.
Et chaque jour, on mettra rendez-vous 13h pour La France bouge. Et puis vous vous dites peut-être que vous êtes submergé par les mails et autre chose du genre. Comment lutter, tiens, justement contre ce que l'on appelle la pollution numérique? On a trouvé une fois de plus la solution et on vous dit tout en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans La France bouge, c'est parti. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr, Twitter ou encore Instagram. Charlotte Barrican y met plein de très jolies photos. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et vous pouvez même regarder Instagram pendant que vous écoutez l'émission sur europe1.fr ou sur n'importe quel poste de radio qui vous intéresse pour suivre chaque jour, du lundi au vendredi, La France bouge de 13h à 14h. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans les coulisses d'un groupe qu'on connaît tous, mais on serait bien incapable de dire ce qu'ils font aujourd'hui. Ben, j'espère et j'en suis sûr qu'à la fin de l'émission, on en saura beaucoup plus.
Bonjour Didier Truth.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'IN Group. Alors IN Group, ça ne dit rien à personne, hein. c'est évident. Mais IN Group, en fait, c'est l'ancienne imprimerie nationale. Vous existez depuis plus de 500 ans. Vous êtes parmi les leaders mondiaux des fournitures d'identité, comme les passeports, la carte d'identité ou encore le permis de conduire. Bref, des documents d'identité encore et toujours plus sécurisés. 1700 personnes travaillent dans votre entreprise. Vous êtes présent partout en Europe. Et on peut le dire, donc vous êtes dans nos poches, hein, dans les poches de tous les Français. Pour que l'on comprenne bien ce que vous faites, on va prendre l'exemple de la carte d'identité. Depuis cet été, un tout nouveau modèle, encore plus sécurisé, commence à être distribué en France. Plus petit que l'ancien modèle. Combien de temps, Didier Truth, a-t-il fallu pour mettre au point cette nouvelle carte d'identité?
Bon, tout d'abord, bonjour. Effectivement, IN Group, c'est le nom commercial en fait qu'on a donné à l'imprimerie nationale.
Mais il y a les initiales.
Voilà, 400. Exactement. Alors, on avait conservé les initiales, le I, le N, le bleu, blanc, rouge.
La Salamandre aussi.
Du site de la Salamandre aussi. Et puis, finalement, c'est une nouvelle forme de l'imprimerie nationale. On a depuis 500 ans.
Pour nous montrer que maintenant, vous faites des choses sécurisées.
En fait, pour pouvoir communiquer aussi sur le fait qu'on s'était transformé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, mais l'imprimerie nationale, on connaît. Oui, mais on connaît depuis très longtemps, et pas forcément pour tous les produits ou toutes les solutions qu'on avait aujourd'hui. Donc c'est un moyen aussi de dire, depuis une dizaine d'années, on s'est largement transformé. On s'est transformé d'ailleurs avec l'arrivée des nouveaux titres d'identité. Et la CNIE en fait partie. C'est le dernier, on va dire, la dernière carte.
Justement, combien de temps, comme vous le disiez, Elisabeth, et vous le demandez, combien de temps on travaille sur cette nouvelle carte nationale d'identité?
C'est pratiquement 18 mois entre le moment où vraiment on prend la décision de le prendre. Mais en fait, c'est le résultat aussi d'une suite logique, une suite de d'éléments de sécurité, physique, logique, de solutions qui sont mises en place. Vous voyez, c'est pas 18 mois, c'est au moment où on dit on va la sortir. Et donc là, on aligne l'ensemble des acteurs pour que 18 mois après, vous ayez un outil industriel qui soit capable de produire. Mais c'est le cheminement. Si vous regardez les titres d'identité, votre permis de conduire, il a déjà évolué il y a quelques années. Vous regardez le titre de séjour électronique. Vous voyez une suite, quelque part, dans le design, dans le format, dans les sécurités qui sont utilisées.
Des titres qui évoluent parce qu'ils sont de plus en plus sûrs. Nous sommes de plus en plus nombreux, donc il faut encore plus sécuriser avec des frontières ouvertes. En quoi est-il encore plus sûre? En quoi est-elle encore plus sûre, cette carte d'identité?
Alors, c'est des titres qui ont commencé à évoluer il y a un peu plus de 10 ans. Là, le premier, c'est le passeport électronique. Vous vous souvenez, après les attentats, en 2006-2007, il y a eu une mondialisation, faire autour du passeport pour devenir un passeport électronique, puis un passeport qui est devenu biométrique. Mmh. Et les titres nationaux, voire européens. Vous voyez, quand on prend la nouvelle carte nationale d'identité, c'est une carte finalement qui est nationale et en même temps européenne. Elle a des spécifications qui sont communes au niveau de l'Europe. Et donc, on a vu arriver de l'électronique, on a vu arriver des logiciels à l'intérieur de cette électronique, on a vu arriver de la biométrie. Et donc, c'est de la combinaison de tous ces éléments de sécurité qui ont fait que le titre est devenu beaucoup plus sécurisé. Beaucoup plus sécurisé.
Est-ce que c'est l'une des plus sûres au monde aujourd'hui, ce modèle européen?
Ça fait partie des titres qui sont très sécurisés. Et la combinaison, d'éléments de sécurité fait que vous avez un titre. Vous rappelez qu'il y a quelques temps, en fait, vous alliez dans votre mairie et puis l'agent venait noter votre nom, prénom, il vous agrafait votre photo sur le papier.
Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Je ne voulais pas. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on part d'une feuille blanche, on part d'une feuille, que ce soit du papier d'ailleurs, du polycarbonate, et de nos sites de production, 3 jours après, vous sortez un titre qui est personnalisé avec votre nom, votre prénom, votre biométrie. Donc, il faut maîtriser aussi tout le transfert des données qui arrivent sur notre site et qui repartent vers vous.
Mais quand vous dites que c'est sécurisé par rapport à qui et par rapport à quoi?
Alors, c'est sécurisé, d'abord, parce que si vous essayez de refaire le même titre aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'éléments de sécurité qui sont à l'intérieur du site, du titre. Vous avez des hologrammes, vous avez des formes de lettres, d'écriture, vous avez de l'encre qui est utilisée, qui fait que si vous voulez reproduire...
L'encre est unique.
Qui est unique.
Vous qui avez inventé tout ça?
Alors, c'est pas nous. Nous, on a certaines technologies en propre.
Vous en avez
On a des
en
processus
partie.
En propre, mais on en intègre un certain nombre qui sont des technologies dans ces domaines-là, qui sont.
Mais du coup, ça coûte de plus en plus cher de fabriquer chacune de ces cartes, parce qu'avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, là, entre vos hologrammes, les encres et tout ça.
Si vous voulez, entre le processus avant qui consistait à partir d'un papier, il fallait transporter des titres vierges, donc très sécurisés pour pas qu'on les vole au passage. Puis après, vous aviez tout le temps de personnalisation manuelle. Aujourd'hui, vous avez un vrai outil industriel pour faire ça. On fait 50 millions de titres par an. Donc 50 millions...
Vous dites, c'est que ça coûte pas plus cher aujourd'hui à produire, malgré toute la sécurité, même moins cher.
Vous avez même un titre qui est beaucoup plus optimisé économiquement que ce qui se faisait auparavant, quoi.
Quand est-ce qu'on pourra tous avoir cette carte? Il faut attendre que l'ancienne soit périmée d'abord, ou on peut y aller là aujourd'hui et la demander?
Vous pouvez y aller dès aujourd'hui, à partir du moment où effectivement votre carte est périmée, ou si jamais vous avez perdu votre carte. Mais si votre carte est périmée, vous demandez à refaire votre carte à partir de le 2 août 2021, partout en France, vous pouvez aller récupérer finalement cette nouvelle carte.
Qui rentre dans une poche en jean.
Vous êtes marrant, vous êtes venu avec, c'est le format d'une carte bancaire pour
c'est
faire
le format
ça.
D'une carte bancaire.
C'est comme le permis de conduire aujourd'hui.
C'est exactement le même format que le permis de conduire. C'est un titre sur un règlement européen, ce qui fait que c'est aussi un titre de voyage. En fait, vous voulez voyager dans les 27-28 pays européens, vous pouvez vous servir de cette carte nationale d'identité qui est aussi un titre de voyage.
Plus léger qu'un passeport.
Question cruciale pour vous, comment renforcer la sécurité? Parce qu'on y met toujours plus d'infos, il y a beaucoup plus de données personnelles dedans, et tout simplement ne pas se faire hacker et qu'on ne nous vole pas toutes nos données. C'est une question cruciale.
Nous, c'est au cœur de notre projet. Hein. C'est bien compris, derrière le IN Group, il y avait aussi la signature du droit d'être soi, qui est vraiment de se dire, vous nous confiez vos données, parce que c'est ça, à travers les dispositifs qui sont mis en place, vous confiez vos données d'identité. Ces données ne servent qu'à produire le titre. On vous remet un moment le titre, en face à face, et donc à partir de là, on détruit ces données. Donc tout dispositif de recueil, de traitement, de base, tous ces dispositifs-là sont traités pour protéger et faire en sorte que cette donnée ne puisse pas s'échapper. De toute façon, elle n'est pas conservée, cette donnée, chez nous. Elle est détruite une fois qu'on a produit le titre. Donc, on minimise le risque.
Le risque.
Nous sommes dans les coulisses de la fabrication de nos titres d'identité, avec toujours encore plus de technologies. Hein. C'était l'imprimerie nationale. Aujourd'hui, ça s'appelle IN Group, mais en fait, c'est la même chose, sauf que c'est plus moderne. C'est avec un degré de technologie encore plus important. Didier Truth, vous en êtes le PDG et vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on parle aujourd'hui de l'ex-imprimerie nationale. Maintenant, ça s'appelle IN Group et c'est l'une de nos pépites. Et on a vraiment voulu la mettre en avant aujourd'hui. Parce qu'au moment où on est en train de parler de plans d'investissement de 30 milliards d'euros qui vont être investis dans les technologies de demain, et bien ça, ça fait partie de nos technologies d'aujourd'hui qui va continuer à falloir faire grandir pour justement continuer à rester un des leaders mondiaux. Puisqu'on ne l'imagine pas, mais l'ancienne imprimerie nationale est encore aujourd'hui l'un des leaders au monde pour créer tous nos titres d'identité, que ce soit les cartes d'identité, que ce soit les passeports, que ce soit les permis de conduire. On le fait bien évidemment pour la France, mais on le fait également pour plein plein d'autres pays. On va découvrir tout cela pendant l'émission jusqu'à 14h, Elisabeth.
Et on est en plein dans une émission au sein d'un monde qui se dématérialise.
Hein,
et qui change complètement. Alors là, moi, on va vous raconter l'histoire de deux frères qui ont imaginé un dispositif très simple, complètement sécurisé, pour faciliter nos gestes du quotidien. Par exemple, pour appuyer sur un bouton d'ascenseur.
J'ai trouvé ça fou comme idée.
Sans contact. Et c'est vous qui l'avez mis au point, Marc Zerad. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur, vous l'avez fondé avec votre frère, donc, de
Exactement.
MZ Technologies. Marc Zerad, j'imagine qu'il y a un truc, il y a un lien.
Bravo.
MZ Technologies, c'est la technologie de l'hologramme. C'est ça qui nous a intéressés à La France Bouge. L'hologramme est petit à petit en train de s'installer dans nos vies quotidienne. Mais comment ça ?
Alors, la complexité de l'hologramme, c'est connu depuis très très longtemps, ça a été imaginé par Jules Verne il y a ça très longtemps. Et nous, moi et mon frère, on a un parcours industriel, on vient de l'induction électrique, donc on a beaucoup travaillé avec les ondes, avec la gestion d'ondes électriques. Gérer un espace aujourd'hui électriquement ou électroniquement, on sait faire depuis des années, mais on n'avait pas de support visuel qui permettait de rendre l'air tactile. Et donc aujourd'hui, avec l'hologramme, on a eu ce support visuel qui nous permettait donc de dématérialiser l'écran ou le bouton, par exemple, comme le cas de la RATP dans le bus, dans les bus. On cherchait la solution pour qu'on ait vraiment un sans contact, sans
parfait. C'est-à-dire qu'on approche notre main du bouton en question, mais on n'y touche pas. C'est ça votre technologie.
Notre technologie aujourd'hui, vous avez une image, vous avez un bouton. On va prendre, pour exemple,
dans le
un
bouton
panneau d'ascenseur.
Voilà.
Vous appuyez sur le 1, le 1 va s'enclencher, vous allez le voir visuellement, qui va grossir, il va...
Mais j'appuie vraiment dessus ?
Et vous appuyez, enfin vous avez la sensation d'appuyer, mais vous avez la sensation de toucher, mais l'image n'existe pas.
C'est incroyable.
L'image, c'est un... Donc l'hologramme, bon, on ne peut pas attraper un hologramme.
Alors moi, je vais poser la question de Béotien, complètement débile, mais je l'assume. Oui. Comment, sans que j'appuie, sans que du coup ce bouton soit relié à un système, comment mon ascenseur, il arrive ?
Donc nous, ce que je vais expliquer, donc mon frère qui a développé MZ Technologies.
Il est docteur en génie électronique, votre frère.
Exactement, il est docteur en génie électronique, il sort des grandes écoles françaises. Et en fait, donc nous, cette image qui est holographique, il y a des capteurs électroniques qui sont autour, évidemment. Et donc quand vous appuyez sur l'image, vous avez la sensation visuelle d'appuyer sur un support qui n'existe pas. Mais électroniquement, on sait le gérer. On sait que vous avez appuyé sur le 1, on sait que vous avez appuyé sur le 2, sur le 3. Donc votre ascenseur réagit comme une plaque à bouton classique, sauf que le bouton, techniquement, il n'existe pas.
Et c'est le Covid qui vous a fait avancer et évoluer là-dessus. Vous avez dit, on doit travailler sur une solution sans contact.
On travaillait déjà, nous, comme je l'ai dit au début, on sort du monde de l'induction électrique.
C'est votre père qui a inventé la plaque induction, on peut lui rendre hommage.
Mon père, il a développé l'induction électrique industrielle pour la métallurgie.
C'est ça.
Après, il y a plein de choses
Vous êtes des génies dans ce domaine-là.
Donc nous, on a grandi dans ça et donc on savait, on voulait faire un truc un peu, rendre l'air tactile. Et puis bien sûr, le Covid, c'est un accélérateur hyper important. Qui nous a permis de mettre en place ce qu'on imaginait faire depuis longtemps. On a eu la chance de rencontrer des grands partenaires.
Alors justement, ces grands partenaires, votre idée, elle n'est pas restée que sur un bout de papier, sur une table.
Oui.
On peut la voir dans des bus, en Bretagne, en région lyonnaise. La région lyonnaise aussi s'en est équipée ? C'est
Vienne,
ça ?
Oui.
Ce sont eux vos partenaires aujourd'hui ?
Oui, alors nos partenaires, on a eu la chance et l'honneur de développer avec le groupe RATP le bouton d'arrêt de bus en hologramme qui est baptisé Holostop. C'est le premier bouton au monde d'arrêt.
Et c'est pas dans tous les bus, ça, mais dans mon bus, dans le 43, il n'y a pas encore le bouton.
Ça arrive.
Ah.
Donc c'est des processus assez longs, c'est des technologies qui n'existent pas. Donc
il faut changer le bus ou il y a juste la technologie à mettre en place ?
Non, on change juste le bouton.
Donc c'est facile à faire.
Donc ça va arriver dans mon 43 ?
Normalement, oui.
Soyez rassuré, Emmanuel. Donc, l'hologramme, pour qu'on comprenne bien, il est protégé dans un boîtier.
Oui.
Hein, c'est ça. Donc, nous, on ne le voit pas.
Non.
Mais sauf que lui, il nous voit, il nous devine. En tout cas, il devine nos gestes.
La technologie de l'hologramme, c'est un jeu de miroir. Donc, l'hologramme, c'est assez connu. Le problème, c'est que ça prend énormément de place. Et on avait besoin de rendre la technologie beaucoup plus compacte. Donc aujourd'hui, il y a des avancées qui ont été faites sur l'hologramme. Aujourd'hui, on sait projeter une image holographique dans un encombrant très, très petit. Et c'est ce qui nous
permet... Ça pourrait aller jusqu'à une machine à café, par exemple ?
On fait déjà la machine à café avec un partenaire.
Elle est où, cette machine ? C'est
Elle
quoi
est chez D8. C'est un leader français de la DA. Mmh. Et donc, la machine à café existe déjà. Et comme je disais dans le partenaire, on a eu la chance de démarrer avec les RATP sur un bouton qui est assez simple, en fait, avec une seule fonction, stop. Et ensuite, on a eu le grand honneur de travailler avec l'imprimerie nationale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on développe des projets, c'est il y a des ingénieurs de notre côté, il y a des ingénieurs de l'autre côté.
Didier Truth, je vous vois écouter attentivement ce que nous raconte Marc Zérad avec sa technologie de l'hologramme. Si on se projette sur nos frontières, sur les mouvements des populations, est-ce que cette solution de l'hologramme pourrait être aussi pourrait devenir des contrôles d'identité aussi sans contact ?
En tout cas, Marc l'a très bien dit, le Covid a eu un effet accélérateur parce que pendant une période, plus personne ne voulait toucher, avoir un contact avec le moindre bouton. Donc nous, dans le passage en frontière, parce que finalement la verticale qui nous intéresse, c'est l'identité et l'identité pour passer une frontière, c'est comment on pouvait exploiter cette technologie pour pouvoir réduire le contact finalement au passage d'une frontière. Et donc on a mis cette technologie sur un kiosque.
Ah oui, vous l'utilisez vous aussi ?
Alors on a fait un prototype sur un kiosque qui a été, je suis sûr que Marc en parlera, qui permet de d'activer ou de valider votre passage ou votre identité sur le kiosque. Et donc, vous avez dit tout à l'heure, mais quelle est la perception ? C'est bluffant. Enfin, franchement, quand vous appuyez sur l'hologramme, vous avez vraiment l'impression que vous avez activé la touche qui va finalement se transformer en une action sur le kiosque. Donc, nous, on a fait un kiosque ensemble.
Et donc ça fonctionne. Marc Zérad, parfois, en ce moment, dans les aéroports, on traverse des portiques qui nous prend la température, on ne s'en rend même pas compte. C'est votre technologie ?
Non.
Ah, c'est encore autre chose. C'est pas l'hologramme ?
C'est pas nous. Nous notre
non, mais
projet...
pas vous, mais est-ce que c'est une forme de technologie de l'hologramme aussi, ça ?
Non. Là, c'est des capteurs. Des capteurs. Nous, le projet, c'était vraiment de rendre... Alors, ce qui nous intéressait avec IN Group, les aéroports, c'est un lieu de brassage de beaucoup de populations, donc ça peut être aussi beaucoup de virus, beaucoup de choses comme ça.
Et comme nous, les ascenseurs d'hôpitaux, tout ça.
Comme les ascenseurs, sauf que nous, pour un aéroport, on se dit qu'il y a vraiment des continents qui se croisent. Et l'idée, c'était comment rendre cette machine de contrôle complètement sans contact et puis sans contact sûr. Ouais. Donc c'est le projet qu'on a développé avec IN Group. On a eu la chance d'exposer cette machine au RNTP à Toulouse. On a fait cette inauguration avec le ministre des Transports, que je remercie d'ailleurs, qui est passé nous voir... avec cette machine-là.
Et donc, ça fonctionne très bien.
Parfaitement.
Et vous reviendrez nous en parler de cette technologie.
Il y a pas mal de technologies à développer que vous allez réussir à mettre en place.
De cette technologie de l'hologramme qui révolutionne nos gestes simples. Merci à vous, Marc Zérad. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de MZ Technologies.
Et Didier Truth, le patron de IN Group, l'ancienne imprimerie nationale. On vous garde avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge et cherche à développer ses pépites de demain. Le président de la République a présenté ce matin son grand plan d'investissement. 30 milliards d'euros qui vont être mis sur la table d'ici à 2030 pour financer justement nos technologies de rupture, nos technologies d'avenir. Parmi ces technologies importantes, il y a toute la sécurisation de nos titres d'identité. Et on en parle depuis le début de cette émission avec Didier Truth, qui est le PDG d'IN Group. IN Group, on vous le dit depuis le début de l'émission, mais nous, ça nous a impressionné avec Elisabeth Assayag. C'est vrai que c'est l'ancienne imprimerie nationale, un groupe qui existe aujourd'hui depuis plus de 500 ans. Alors, vous produisez en France, vous avez plusieurs usines en France pour réaliser et fabriquer nos passeports et tous nos titres d'identité. Ce qui est aussi passionnant, c'est que vous le faites pour le compte d'autres pays qui n'ont pas ces technologies et qui du coup sont vos clients. Vous acceptez de nous donner quelques exemples ?
Alors tout à fait, on travaille aujourd'hui avec une trentaine de gouvernements et de pays. Alors la particularité, c'est qu'en France, on réalise le titre, on personnalise le titre, c'est-à-dire que la France, l'État, l'administration nous transfère vos données d'identité et on produit le titre de manière complète. Pour les autres pays, en fait, on aide l'administration à mettre en place l'infrastructure qui permettra de collecter les données bodiné d'identité, nom, prénom, votre photo. À partir de là, d'être capable de sur un support de titre, de venir personnaliser eux-mêmes, nom, prénom, renseigner dans la puce, l'électronique, la biométrie qui va bien. Et donc, la plupart des États qui souhaitent fournir à leurs citoyens leur titre d'identité, passeport ou carte d'identité, vont vouloir se doter de ces infrastructures.
Vous leur vendez des machines ou l'encre
Nous, on a vraiment un rôle de systémier où on vient assembler un ensemble de capteurs pour prendre des empreintes, par exemple.
C'est un peu comme si vous travailliez en marque des serveurs pour un distributeur.
Exactement. Et d'ailleurs, on garantit à la plupart de ces pays de se dire qu'ils veulent être souverains sur leur solution. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dépendre d'une solution ou d'une technologie. Française. Donc, on leur installe de manière... agnostique.
On leur écrit pas dessus, Made in France, quoi. C'est...
Bon, en même temps, on a une très bonne réputation en France, on a une très bonne réputation sur les éléments de sécurité, sur notre titre d'identité. Donc, quand un pays nous choisit, c'est qu'il a confiance aussi dans la solution qu'on va mettre en place, mais elle est toujours adaptée au pays en question.
Alors, quel pays ?
On est sur le continent africain, on est sur le continent Amérique du Sud, on est même en Asie, alors différentes formes, parce que soit ça peut prendre, on installe complètement l'infrastructure et on fournit ensuite des titres vierges qui seront personnalisés sur place, soit on vient uniquement fournir les composants qui permettent de sécuriser le titre. Composants électroniques ou composants ou optiques qui
vont. On vient vers vous ou vous avez aussi un rôle de prospect et de récupérer des clients pour faire aussi rentrer des sous dans les caisses.
Plusieurs formes en fait. Il y a d'abord des appels d'offres internationaux. Donc, comme les autres sociétés, on répond à ces appels d'offres internationaux et puis on gagne ou on ne gagne pas. Voilà, donc là, on est sur les mêmes règles que tout le monde. Puis après, il y a d'autres pays qui viennent vers nous parce que les relations sont privilégiées d'administration à administration.
Donc, il y a un aspect politique aussi, un aspect. On s'entend bien, on va faire du business ensemble, on va vous aider.
Politique, je n'avais pas forcément ça, c'est surtout, vous voyez, quand vous faites un titre d'identité, vous le faites sur 10 ans. Donc il y a un aspect aussi pérennité dans le temps. Quand on fait un contrat avec l'imprimerie nationale, on a l'impression que dans 10 ans, on sera encore là. Vous voyez, on a la certitude peut-être même que dans 10 ans, on sera encore là, qu'on va pouvoir aider à cette transition. Donc,
vous êtes là depuis 500 ans, c'est vrai que c'est à peu près... Ouais. Quand vous dites on est là dans 10 ans, vous ne prenez pas trop de risques. Votre autre grosse activité, et ça aussi c'est vachement intéressant, c'est toute la dématérialisation d'une certaine manière de l'administration et de sécuriser tous les process de l'administration. Parce que là, depuis le début de l'émission, on a parlé de nos titres d'identité, mais aujourd'hui, même par exemple nos déclarations de revenus aujourd'hui se passent en ligne et tout ça. Ça aussi, c'est votre job ?
Oui, depuis, je crois, ce qui a conduit la transformation de l'imprimerie nationale, c'était l'arrivée de ces titres, mais c'était aussi l'arrivée de l'identité numérique. Alors aujourd'hui, on parle, c'est devenu, on veut même un projet européen d'identité numérique, mais on voit bien que ça suit les mêmes processus. Il faut être sûr que ce soit bien vous qui demandez une identité. Sauf que le support est plus physique, le support, il est dématérialisé. Et grâce à cette identité numérique, vous pouvez dématérialiser des processus administratifs ou privés parce que vous êtes capable de vous authentifier. C'est toujours la même question. Dans le monde physique, je vous vois, vous montrez votre carte, c'est vous, ça correspond à la photo.
Clairement, des fois, ça nous paraît très compliqué. Là, tous nos auditeurs doivent souvent se trouver à dire il faut se connecter sur France Connect où on nous demande un truc avec des mots de passe. Moi, je les ai tout le temps oubliés, donc je ne sais jamais quel code je vais bien pouvoir rentrer entre la poste, Amélie, le fisc et autres.
Vous gardez le même code à chaque fois.
Je suis vraiment soudoué en la matière. Vous allez nous faciliter tout ça quand même.
Je rassurer vos auditeurs. Voilà, on est en train de converger. Enfin, on a fait un projet récemment pour Monaco, je peux les citer, qui est un projet qui, lorsque vous allez en mairie, vous récupérez votre carte nationale d'identité électronique, mais vous pouvez activer votre identité numérique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un petit compartiment dans la puce de votre carte d'identité, et quand vous l'avez activé, vous avez un PIN code, un peu comme sur votre carte bancaire, qui permettra, au moment où vous voulez vous authentifier, donc vous aurez un petit lecteur, vous enfoncez votre carte, on vous demande de vous authentifier, vous rentrez votre PIN code, terminé.
Donc tout va être centralisé.
Excellente question. Non, parce que toutes ces données, en fait, il n'y a pas de base centrale. C'est vraiment comme votre carte bancaire, si vous voulez. C'est vraiment, vous avez à un moment reçu ce titre dans un processus qui, lui, est très sécurisé et standardisé. Et vous avez activé ce petit compartiment électronique, votre identité numérique.
Mais
vous êtes la seule. Vous êtes la seule à avoir... On converge. La première étape, c'était déjà d'avoir une carte d'identité électronique. Ah oui. C'est fait.
C'est en cours. C'est ce que nous dit.
Donc là, c'est le premier support. Ça va arriver.
Ça va arriver. Chaque jour dans la France bouge, Didier Trude, nous découvrons une marque ou un endroit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations, hein, comme vous, hein, comme IN Group. Hein, vous traversez des générations. Vous êtes toujours là. Aujourd'hui, je vous propose de partir en Auvergne, dans le plus ancien moulin à papier de France. Il existe depuis 700 ans, 200 ans de plus que vous. Et on y fabrique exactement comme au 15e siècle, l'ancêtre du papier industriel avec des vieux draps de coton en lin ou en chanvre.
Moi, j'ai été impressionné quand Charlotte Barrican nous a raconté ça et on va la laisser nous en dire beaucoup plus pour ce moulin Richard Debat.
Europe 1, la France bouge. La saga.
Laissez parler les petits papiers à l'occasion, papier chiffon.
Le moulin à papier Richard Debat est le plus ancien de France encore en activité. C'est en Auvergne, au cœur de la vallée des Forez, que depuis plus de 700 ans tourne la même roue, celle qui produit aujourd'hui encore plus de 200 feuilles de papier par jour. L'histoire de ce moulin ne date pas d'hier. Les premières traces datent de 1463, date à laquelle un certain Antoine Richard rachète les lieux, lui donne son nom et commence à fabriquer, à la main, à partir de vieux chiffons, des feuilles de papier. Au fil du temps, différentes familles dirigent ce moulin à papier, jusqu'en 1941, où Marius Perraudeau le rachète. Emmanuel Kerbouk, directeur du moulin Richard Debat, est petit-fils de Marius Perraudeau.
On est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Les périodes sont un peu troublées, mais Marius, à l'époque, était un visionnaire et il avait compris qu'il était urgent de préserver et de conserver les moulins à papier et aussi essayer de sauver de la modernité, je dirais, un savoir-faire ancien et qui touche l'homme, puisque le papier est un support d'écriture et sans ce support, on ne peut pas exprimer sa pensée, bien sûr.
Le papier du moulin Richard Debat est avant tout à destination des imprimeurs. Des textes importants ont été imprimés sur ce papier, comme par exemple l'exemplaire original de l'Encyclopédie universelle de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, ou encore la Constitution de la Ve République en 1958. Et il est aussi utilisé pour les diplômes que reçoivent les prix Nobel, une fierté pour les 5 salariés du moulin.
Progressivement, nous avons eu de plus en plus de visiteurs au moulin, et ce qui veut dire que notre papier est devenu plus grand public, avec notamment l'invention ou l'idée, je dirais, parce que c'est pas une invention, mais l'idée d'incorporer des inclusions de fleurs dans la pâte à papier. Ça remonte aux années 50. Et encore aujourd'hui, une des spécialités du moulin, c'est de fabriquer du papier avec des inclusions de fleurs, des fleurs fraîches, incorporées dans la pâte à papier au moment de la fabrication, et ça va servir pour faire des faire-part, des menus, des mariages, des invitations, du papier à lettres, tout ce qui est carterie, correspondance.
Le processus de fabrication du papier est très lent, il se fait feuille par feuille et nécessite un savoir-faire d'exception.
Au moulin, on a un maître papetier, Michel, qui a été formé par un ancien. Ils se sont retrouvés en doublon tous les deux pendant 3-4 ans facilement pour qu'on puisse apprendre ce geste, parce qu'il n'y a pas d'école de formation. Ce qui veut dire que si on veut devenir un fabricant de papier à la main, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est en faisant du papier à la main devant sa cuve que l'on devient papetier, tout simplement.
Le moulin Richard Debat est aussi un musée classé monument historique et entreprise du patrimoine vivant. Malgré la crise du Covid, leur production reprend normalement. Le lieu attire toujours. Et depuis peu, les visiteurs peuvent participer à un atelier de fabrication de papier et ainsi repartir avec une feuille d'exception.
Laissez brûler les petits papiers.
Bonsoir, qu'est-ce qu'on en apprend des choses, hein ? Chaque jour dans la France bouge grâce à nos équipes, notamment Quentin Paillet et Charlotte Barrican qui nous aident par ailleurs chaque jour à monter cette émission. Didier Trude, je rappelle que vous êtes le PDG d'IN Group, l'ancienne imprimerie nationale. On dit depuis le début de l'émission, et on l'a lu avec Elisabeth dans un pack de papier vous présentant l'un des leaders mondiaux. On est vraiment l'un des leaders mondiaux ?
On est présent mondialement, on a pratiquement un passeport. Vous allez pouvoir apprécier un passeport sur 3 dans le monde à un composant de d'IN Group. Une carte sur 4 dans le monde à un composant d'IN Group.
Un passeport sur 3 dans le monde.
C'est une marque holographique. C'est une marque d'IN Group. On a des composants optiques de marque holographique, donc voilà, à peu près un sur 3. Une cinquantaine de 50-55.
On est donc
passeports.
Les leaders, hein, on peut le dire.
Ouais, voilà, ça. Donc là, on commence à être joué parmi la cour des grands. Et puis, même chose
on
sur
commence,
les cartes.
Vous dites on carte. Commence, parce que du coup, on est en train de gagner des places, on est en train d'accélérer.
Parce que ce positionnement-là, finalement, nous permet, dans la transition entre le physique et le numérique, d'être présent. dans cette transition. Bah, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tout vient de se dématérialiser et l'identité numérique, ça ne vous a pas échappé qu'il y a un certain nombre de grandes sociétés qui veulent se positionner, qui veulent vous fournir ces identités.
Oui, il y en a qui veulent, il y a plein de petits qui arrivent sur le marché.
Il y a plein de petits qui arrivent sur le marché. Donc on est, en tout cas, on peut être une alternative.
Ah ouais. Bah c'est fou si on s'était dit ça, l'imprimerie nationale.
Tout à fait. Mais
c'est ça, la France bouge. Didier Truth, on va vous demander d'accompagner, de coacher une entrepreneur qui se lance. On va passer à la séquence des trophées de l'avenir. Vous êtes prêts?
Allez.
Deux, trois conseils, hein.
Allez.
Pas plus.
Super.
Allez, c'est parti.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle innove chaque jour avec ses trophées de l'avenir. Europe 1, la France bouge devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour aujourd'hui, Didier Truth, le patron d'IN Group, l'ancienne imprimerie nationale. Et puis bien évidemment, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie est aussi avec nous.
Bonjour Marie Lagrange.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de AIKA, une application dédiée aux parents. Vous avez 41 ans. AIKA, ça veut dire du temps en finlandais. Si vous avez choisi le finlandais, c'est parce que la Finlande est l'un des pays où l'on est le plus heureux dans les classements internationaux. Alors, vous allez nous en dire plus sur AIKA. Vous avez une minute pour votre pitch. C'est parti.
Alors, cet été, j'ai encore eu une amie qui a raté ses vacances, non pas à cause du Covid, mais parce que le passeport de son fils était périmé. Avec AIKA, ça ne serait pas arrivé. AIKA, c'est l'application qui va permettre aux parents d'anticiper leur quotidien en pensant à tout à leur place. Bien plus qu'une simple to-do list, grâce à différentes informations que vous allez rentrer sur vous-même et votre entourage, l'application va générer automatiquement des actions auxquelles vous auriez dû penser par vous-même. D'une simple idée de dîner jusqu'au rappel pour le rendez-vous du dentiste annuel, le renouvellement d'un passeport ou bien la super idée de cadeau de Noël pour mamie, AIKA vous propose les meilleures solutions au meilleur moment. C'est aussi des idées d'activités, des moments à partager en famille pour être plus sensible notamment à l'écologie. Et ainsi, donc, il y a une nouvelle version qui est disponible sur iOS depuis quelques jours, une première version sur Android. Et pour 39,99€ par an, toutes les familles peuvent utiliser les fonctionnalités et la tester également pendant une semaine gratuitement.
Pourquoi vous nous avez dit que vous étiez toutes stressées avant de commencer pendant la pub?
C'est le symptôme de la bonne élève.
Regardez-moi comme c'était propre, bien fait, souriant et tout. Bravo en tout cas. Alors, vous avez dit 39,90€ par an.
Oui, franchement, Emmanuel, elle a tout dit.
J'ai un petit taf quand même en plus, parce que si on veut s'abonner, on peut le faire par mois. Et là, c'est un peu plus cher, c'est 5,99€.
Exactement.
Juste une question, est-ce que AIKA remplit le formulaire à ma place pour faire le passeport?
Elle vous redirige sur le site internet pour le faire, pour prendre le rendez-vous, etc.
D'accord.
Oui, elle ne peut pas encore tout faire.
Bonjour Nathalie Carré.
Elisabeth, bonjour Marie.
Je suis concernée, bonjour.
Feignasse, hein.
Pour les papiers, à 100%.
Ah ouais.
C'est pour ça qu'elle voulait qu'on invite l'imprimerie nationale. Oui. Elle a plus rien.
Ça, là, je n'ai plus d'excuses, il faut vraiment que j'y aille. Bon, quelles sont les forces et les faiblesses, selon vous, Nathalie Carré, d'AIKA? J'aime bien le nom en plus de votre application.
Oui. Alors, mais c'est donc la solution dont on rêve, hein. Vider la case affaires de notre cerveau pour la reporter sur une appli. Voilà. Bon, ça marche aussi pour les hommes, effectivement.
Ah, encore, c'est pour les parents, c'est pour la famille.
Mais oui, bah non, mais c'est un peu encore les filles qui font des choses, encore, hein, quand même.
Il y a un tiers d'hommes qui a téléchargé l'application.
Ah, voilà, vous voyez.
Alors, bravo.
Voilà.
Bravo. Bon, le gros point fort, évidemment, c'est les suggestions qui nous facilitent la vie et puis le prix qui est vraiment très accessible pour le service rendu. Alors, quelques points améliorés et puis surtout des suggestions. Quand on télécharge, en fait, il faut payer pour voir, même s'il y a une semaine offerte. Apprendre à utiliser une nouvelle appli en quelques jours pour savoir si on est OK pour payer, c'est quand même beaucoup d'efforts. Donc, comme souvent, il manque des explications. Dites-nous tout, je vous donne un exemple. On peut inviter des utilisateurs, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, expliquer. Le mieux, c'est d'expliquer depuis un site web plutôt que sur l'appli, enfin les deux, parce que ça renforcera votre visibilité. Puis quelques suggestions. Quand on est un peu organisé quand même, on a déjà pas mal de tâches et de rappels dans notre agenda, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer automatiquement ces infos? Est-ce que vous ne pourriez pas nous proposer des tâches type un anniversaire organisé, rendez-vous médical, etc.? Ça nous éviterait de trop de saisies. En fonction de l'âge des enfants, peut-être que vous pourriez nous demander les dates d'examen, de sortie scolaire par exemple, à pré-remplir. Et puis, est-ce qu'on peut programmer des tâches pour nos proches, faire en sorte que ça soit eux qui reçoivent les notifications, pour que ce soit eux qui fassent? Puis, il y aura encore évidemment des dizaines de fonctionnalités à imaginer, notamment pour les couples séparés qui doivent gérer à deux les enfants. Ça éviterait les... en fait, c'est toi ou c'est moi qui l'inscris au ping-pong cette année? Vous voyez? Ou bien les « Ah, oh, ben t'as oublié de l'inscrire, mince !» Donc là, dans ce champ-là, il y a une multitude de choses à faire. Bravo, mais là, pour l'instant, le gros point noir, c'est l'explication. On a un peu de mal à s'y retrouver.
De la pédagogie, hein, ça c'est pédagogie, votre... Toujours. Vous y tenez, hein, Nathalie Carré.
Mais sinon, on arrête, en fait. On ne sait pas, on ne comprend pas, on cherche des trucs, on ne sait pas, donc on abandonne.
Bon, Marie Lagrange, un peu plus d'explications. C'est noté.
C'est noté.
Didier Truth, vous êtes notre grand patron du jour, PDG d'IN Group. Vous validez, hein, je crois, cette appli. Hein.
Oui, c'est à 100%. En plus, elle a commencé avec les passeports.
Ça nous a tous parlé. Elle a été très bonne.
En plus, là où ça nous parle, c'est que c'est beaucoup de données personnelles. Donc, la confiance doit se faire autour du site. En tout cas, je pense que c'est au cœur de votre préoccupation.
Bien sûr
que ces données soient protégées, que tous ceux qui vont demain utiliser l'application n'aient aucun doute sur le fait
tout
que leurs données personnelles seront protégées. Et là, vous avez un dispositif gagnant. Puis je vous l'ai dit, quand on s'est croisés, nous, on a plein de serveurs, d'équipements qui communiquent les uns avec les autres. Il faut des certificats et on utilise un logiciel juste pour se rappeler qu'à un moment, le certificat est obsolète et qu'il faut le renouveler. Alors, c'est dans le monde industriel.
Tout à fait.
Mais dans sa vie personnelle, on voit bien que...
On en a effectivement bien besoin. Et vous avez besoin de sous, Marie, c'est ça? Vous voulez lever des fonds d'ici à la fin de l'année?
D'ici la fin de l'année, effectivement.
Vous avez besoin de combien?
200 000 euros.
Et ben voilà, 200 000 euros. Si un investisseur ou des investisseurs nous écoutent, ils ont qu'à vous contacter.
Ça s'appelle Aïka. Merci à vous, Marie Lagrange, d'être venue nous présenter votre projet. Hein, et surtout, il est lancé à peine au mois de janvier cette année. Donc, on vous reviendrait nous en parler.
Très bien, avec plaisir.
Et si vous aussi, vous voulez venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Une seule adresse, mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge.
Didier Truth, vous êtes le PDG d'IN Group. Suite et fin de votre émission, vous reste encore quelques minutes avec nous.
Avec
plaisir. On continue.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Toujours avec Didier Truth, le PDG d'IN Group, l'ancienne imprimerie nationale. C'est eux, hein, une fois de plus, qui s'occupent de tous nos papiers d'identité, les passeports, les permis de conduire et puis plus largement toute la sécurisation de la simplification administrative tant espérée en France.
Et c'est le moment de mettre en avant ces entreprises qui placent le capital humain ou l'environnement hein, ou la protection de la planète au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Emmanuel Temkin.
Bonjour.
Vous êtes la directrice innovation et RSE chez Orange et vous, votre sujet, c'est la pollution numérique. C'est pour cette raison que vous êtes dans la France Bouge, parce que vous avez mis en place des solutions pour sensibiliser tous les salariés à cette problématique. Arrêtons de polluer avec la pollution numériquement.
Tout à fait, oui. Orange est vraiment super engagée sur tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise et notamment sur les usages responsables du numérique. Donc, on a mis en place un kit numérique responsable pour que chacun puisse s'emparer des meilleures pratiques quand on utilise le numérique.
Et c'est quoi les bonnes pratiques alors ?
Alors, les bonnes pratiques, elles vont être à la fois sur le matériel et à la fois sur les usages. Donc, des bonnes pratiques, ça va être typiquement comment est-ce qu'on prend soin de son matériel ? Est-ce qu'on a vraiment une protection anti-choc ? Comment est-ce qu'on va réutiliser, réparer, faire réparer ? Il va y avoir aussi pas mal de choses sur les usages. Donc, comment est-ce qu'on se connecte au réseau le moins impactant ? Comment est-ce qu'on va privilégier le Wi-Fi ? Et comment on va calculer la taille de ces données pour essayer d'en utiliser le moins possible. Donc, on a énormément, on a 11 thèmes, en fait, sur la partie matérielle et 11 thèmes sur la partie usage.
Et puis, il y a aussi des questions de lien avec son smartphone, d'une certaine manière. Je crois que parmi les items, il y a comment s'éloigner de son smartphone le soir.
Oui, il y a tout à fait
ça. Ça aussi, ça fait partie de la pollution numérique.
Détox numérique, exactement. Comment éduquer ses enfants aussi, partager ses bonnes pratiques. Oui, ça fait partie de nos engagements dans la responsabilité sociale d'entreprise.
J'ai bien aimé l'idée, par exemple, comment on fait si on reçoit un appel urgent et notamment apprendre les différents modes de veille. C'est-à-dire, grosso modo, on éteint son téléphone, mais on permet quand même au numéro de son patron de pouvoir faire sonner son téléphone. C'est ça l'idée.
Exactement. Et donc, il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut vraiment partager avec tous les participants pour savoir ce qui marche et comment est-ce qu'on fait concrètement, en fait, quand on se retrouve dans telle ou telle situation.
Et les salariés en sont fiers? Ils se sont emparés du sujet?
Ah oui, alors ça a été vraiment plébiscité puisqu'on a plus de 400 salariés d'Orange qui ont participé à différents ateliers numériques en interne. Et là, on va l'ouvrir en externe, pour que tout le monde puisse vraiment participer avec nos ateliers numériques en présentiel, en boutique et en tiers-lieu et en ligne aussi, bien sûr. Donc, c'est vraiment accessible à tous, hein, pour les jeunes personnes, les personnes actives, les personnes âgées. On va rajouter une brique sur les usages responsables du numérique.
Les usages responsables du numérique, ça peut donner des idées à d'autres entreprises de faire la même chose que vous. Merci à vous, Emmanuel Temkin. Je rappelle que vous êtes la directrice innovation et RSE chez Orange. Didier Truth chez IN Group aussi. C'est une problématique importante avec vos salariés. Vous avez 1700 salariés. Il y a aussi cette question de l'environnement, de la pollution numérique.
Ça en fait partie. En tout cas, la RSE, c'est au cœur de notre projet d'entreprise. Donc, ça en fait partie. Nous, on a une sensibilité autour de justement comment on rentre dans cet environnement numérique. Finalement, quand vous êtes en cinquième aujourd'hui, on vous apprend, on vous initie au code de la route. Moi, j'ai le patron du cybercampus qui exprimer l'idée d'avoir aussi un apprentissage pour aller dans l'environnement du super numérique. Moi, je trouve que c'est une superbe idée. Mmh. Et nous, on est en train de faire réagir nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'inscrire finalement dans ce type de contribution où on peut, avec nos collaborateurs, finalement éclairer nos jeunes enfants de cet environnement numérique.
Sensibiliser les collaborateurs pour aussi éclairer les jeunes enfants de ces collaborateurs. Merci à vous, Didier Trude. Je rappelle que vous êtes le PDG d'IN Group. IN Group, c'est l'ancienne imprimerie nationale, entreprise qui a plus de 500 ans. Vous êtes leader et un passeport sur trois dans le monde a des composants IN Group. Nous en sommes très fiers de votre belle entreprise française. Merci d'être venu dans la France Bouge. Demain, merci. Emmanuel, on va parler.
Eh bien, demain, on va parler d'un groupe qui est en train de redémarrer. En l'occurrence, c'est le groupe Accor, avec un été très très bon du côté du tourisme et finalement une rentrée qui est meilleure que prévu parce que notamment les salons repartent plus vite que ce que l'on avait pu imaginer. On sera avec l'une des patronnes du groupe Accor demain.
À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.